Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Chindel Tambara.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. À Kinshasa, le ministère provincial de la santé publique interdit l'installation de toute morgue non conforme aux normes nationales en matière de santé. Cela dans le souci de protéger la santé publique et aussi en vue de respecter strictement les mesures d'hygiène, de salubrité et de sécurité pour toute installation traitant des corps humains. Bonne nouvelle pour des milliers de déplacés internes et externes, victimes de conflits dans l'est de la RDC. Il y a eu lancement du plan de réponse à leurs besoins humanitaires. Ce plan vient pallier à la baisse du financement de l'aide humanitaire par différents pays, notamment les États-Unis. La rébellion de l'ADF est responsable de certaines des violences les plus atroces commises en RDC. C'est la conclusion du rapport que vient d'élaborer l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence Ebouteli. Vous allez suivre tour à tour les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier, animée par Guillaume Maté Tchongo. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Prolifération des morgues à Kinshasa, le ministère provincial de la santé publique tape du poing sur la table. Il interdit l'installation de toute morgue non conforme aux normes nationales en matière de santé. Cela dans le souci de protéger la santé publique, la dignité humaine ainsi que l'ordre sanitaire, indique un document de ce ministère publié dernièrement. Et aussi en vue de respecter strictement les mesures d'hygiène, de salubrité et de sécurité pour toute installation traitant des corps humains. Le point avec Benjamin Moudoumbi.
Conformément aux normes nationales, une morgue doit être construite, ouverte ou gérée par un hôpital dûment agréé. Or, tel n'est pas le cas à Kinshasa où des centaines de morgues sont répertoriées dans presque tous les quartiers de la capitale, exposant ainsi la population à des maladies. Dans les communes de Kalamu et Limité, par exemple, certaines morgues se croisent étroitement avec les habitations. C'est pourquoi le ministère provincial de la santé publique indique qu'aucune personne physique, aucune société ou structure non hospitalière n'est autorisée à ou exploiter une morgue de manière autonome. Bref, le communiqué du ministère provincial de la Santé note qu'il est strictement interdit de construire une morgue sans disposer d'un hôpital agréé, d'ouvrir ou d'exploiter une morgue sans autorisation préalable du ministre provincial de la Santé, de fonctionner en violation des normes légales, techniques et sanitaires. En plus, toute personne travaillant au sein d'une morgue doit bénéficier d'une certification du ministre provincial de la Santé. À bon entendeur, salut.
Santé encore, au moins 24 personnes sont mortes de suite de la rougeole sur les 1912 cas enregistrés au cours de la troisième semaine du mois de janvier 2026 en RDC. Ce chiffre est communiqué lors d'une réunion d'évaluation organisée par les services de santé sont parvenus hier mercredi à Radio Kapi. Selon les autorités sanitaires, la situation continue de se détériorer dans plusieurs provinces du pays. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Selon des sources médicales, les enfants âgés de 12 à 59 mois constituent la tranche de la population la plus touchée par la rougeole en RDC. Les mêmes sources indiquent que les faibles taux de vaccination demeurent l'une des principales causes de cette flambée épidémique, accentuant la vulnérabilité des jeunes enfants à travers le pays. Face à cette situation, les autorités appellent au renforcement urgent des campagnes de vaccination à grande échelle et insistent sur la nécessité d'intensifier les actions de sensibilisation au sein des communautés. Elles exhortent également la population au respect strict des mesures de prévention pour limiter la propagation de cette épidémie. Une mobilisation collective s'avère indispensable pour contenir cette maladie. Les provinces du Nord et Sud Kivu figurent parmi les zones les plus touchées, ce qui nécessite une réponse rapide, coordonnée, durable de la part des acteurs sanitaires. Dans ce cadre, le ministère de la Santé publique prévoit d'organiser au mois de mars prochain une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole.
Je le disais en titre, bonne nouvelle pour des milliers de déplacés internes et externes, victimes de conflits dans l'est de la RDC. Il y a eu lancement du plan de réponse à leurs besoins humanitaires. Ce plan, il faut le dire, vient pallier à la baisse du financement de l'aide humanitaire par différents pays, notamment les États-Unis. Et justement, face aux difficultés financières, Efba Zaïba, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, exhorte les acteurs humanitaires à utiliser les fonds alloués à l'aide humanitaire de manière rationnelle. Plus de détails avec John Chibouaboua.
La RDC demeure confrontée à une crise complexe marquée par des conflits persistants, des déplacements massifs et le sous-financement de l'aide humanitaire. Pour Bruno Le Marquis, coordonnateur des opérations humanitaires, la situation est dramatique.
Alors l'heure est grave parce que on fait face à une situation un peu particulière en RDC. D'une part, il y a la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la RDC avec énormément de mouvements de population. Ça, c'est un. Et ça a également intervenu 2025, une année où il y a eu une baisse drastique au niveau mondial des financements de l'aide publique au développement et de l'aide humanitaire. Donc, la RDC a été particulièrement touchée par ces coupes financières.
Un cadre sera mis en place pour la collecte des fonds à l'aide humanitaire. F. Bazaïba.
Aujourd'hui, la mobilisation des ressources. Le peu de ressources qui seront mises à notre disposition du point de vue sectoriel, nous devons les utiliser de manière rationnelle. Le gouvernement de la République, tout en continuant à espérer à l'appui international, mais le gouvernement va tenir compte aussi de ses efforts propres. Nous allons donner ces cadres-là pour la collecte des biens que nous devons soutenir.
Notez que cette rencontre a connu la participation de la ministre de l'Éducation nationale Raissa Malou et celle du genre Micheline Kalama.
Parlant de l'insécurité qui ronge l'est de la RDC, notez qu'en Ituri, des hommes armés ont ouvert le feu dans la nuit de mardi à mercredi sur certains habitants dans un bistrot à Iga Barrière, à 25 km au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. Les bilans provisoires fait état d'un mort et de 3 blessés. Les autorités militaires attribuent cette attaque à des miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP. Des miliciens de la CODECO ont également tiré sur des civils la veille à Pimbo. Une situation qui inquiète la population locale. Isaac Remoyope, reportage.
La situation sécuritaire reste précaire dans plusieurs localités du territoire des Djougou, malgré une relative accalmie observée depuis près de 3 mois. Dans la nuit de mardi à ce mercredi, des hommes armés, présentés comme des miliciens de la CRP, ont fait irruption dans un bistrot à Iga Barrière et ont ouvert les feux sur des civils. 4 personnes ont été atteintes par balle, dont l'une a succombé à ses blessures. Les blessés ont été évacués vers Bounia pour des soins appropriés. Cette attaque a provoqué une panique générale au sein de la population de ces centres commerciaux craignant une incursion des groupes armés. La veille, des miliciens de la CODECO ont également tiré en direction des civils vers 19h dans la localité de Pimbo sans faire des victimes. Toutefois, selon des sources locales, les activités économiques ont été paralysées. Un homme aurait été enlevé par ses assaillants à Kaba. Face à cette recrudescence des violences, les casques bleus de la MONUSCO ont installé une base temporaire à Pimbo afin d'assurer la protection des civils. Des patrouilles conjointes ont été renforcé par la force de la MONUSCO pour appuyer les FARDC actuellement en état d'alerte afin de contenir les menaces posées par ces groupes armés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Et puis une œuvre littéraire qui naît des cendres de la guerre à Béni. Un jeune écrivain local a présenté mardi son œuvre littéraire intitulée « C'est que la guerre n'a pas tué ». Il invite ainsi la population à la résilience et à la résistance face aux souffrances endurées depuis plus de 3 décennies. Publié en novembre 2025 par l'édition Plume Noire au Sénégal, le livre encourage à bâtir sur la ruine et à transformer la souffrance en force constructive. Serge Moulimani Kalinda, l'auteur, a expliqué que son objectif est d'appeler la population, en particulier celle de l'Est de la RDC, à ne pas se définir par la guerre ou la souffrance, mais à puiser dans ses épreuves l'énergie nécessaire pour rebâtir et avancer. Il explique au micro de Marc Marofimbo.
C'est que la guerre n'a pas tué veut tout simplement appeler le peuple, surtout celui de l'Est de la RDC, à la résilience, à la résistance. La guerre, bien sûr, elle nous a tout pris. Depuis plus de 3 décennies, la population de l'Est de la RDC est en train de payer des lourds tributs de la guerre. Mais ce que la guerre n'a pas tué, c'est cette conception selon laquelle, même sur les ruines, on peut encore rebâtir. À travers ce que la guerre n'a pas tué, j'ai appelé la population à ne pas se définir par rapport à la souffrance, à ne pas se définir par rapport à la guerre, mais à puiser dans la souffrance des énergies nécessaires pour essayer de rebâtir. Il y a certaines personnes qui sont bien sûr des victimes, mais qui restent des victimes qui n'agissent pas. Et alors, demeurer victime et ne pas agir, c'est plus pire que la guerre. Ce que la guerre n'a pas tué, c'est la vie. Nous devons la positiver, nous devons la relativiser pour que, même au-delà de la souffrance que nous sommes en train de vivre, nous devons encore rebâtir.
Le chef du bureau de l'ONU pour la réduction des risques et des catastrophes arrivé à Kinshasa lundi et pour une visite de travail de 4 jours poursuit son séjour de travail dans la capitale de la RDC. Ce mercredi, il a conjointement avec le gouvernement congolais ouvert l'atelier de 2 jours annoncé la veille sur les systèmes d'alerte précoce pour tous contre les risques des catastrophes en RDC. Et à cette occasion, les deux parties ont vivement marqué leur détermination à mettre en place un système d'alerte qui fonctionne réellement comme nous le rapporte ici Dona Madimba Mbaya.
La première ministre de la RDC, qui a officiellement ouvert cet atelier, a tout de suite indiqué son souci de voir l'atelier de Kinshasa aboutir à la mise en place d'un outil immédiatement utilisable, Judith Souminois.
Je formule le vœu que cet atelier constitue un cadre de réflexion constructive, de concertation inclusive et d'engagement concret de tous les acteurs concernés afin de jeter les bases d'une feuille de route nationale ambitieuse et réaliste pour les systèmes d'alerte précoce en République démocratique du Congo.
De son côté, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du bureau de cette organisation chargée de la réduction des risques des catastrophes dans le monde a évoqué sa joie de se déplacer en RDC pour travailler à mettre en place un système d'alerte précoce des catastrophes qui agira avec efficacité. Kamal Kishore.
C'est pour ça que j'appelle à la communauté internationale à continuer de soutenir ces efforts.
Cet atelier qui réunit plusieurs centaines d'experts nationaux et internationaux de la communication, surveillance et prise en charge des catastrophes doit se clôturer jeudi, permettant à la RDC, selon le souhait des autorités, d'avoir à très court terme un système d'alerte contre les catastrophes efficace.
Le monde célèbre ce 28 janvier la journée de la protection des données personnelles, une journée consacrée à la sensibilisation sur l'importance de la vie privée à l'ère du numérique. À Bounia, comme dans plusieurs villes de la province de l'Ituri, l'usage des réseaux sociaux et des services numériques ne cesse d'augmenter, mais peu d'utilisateurs savent réellement comment protéger les informations personnelles. Jean-Claude Lokidile s'est penché sur cette question et nous propose ce reportage.
Sur Facebook, WhatsApp et TikTok, de nombreux habitants publient chaque jour leurs photos, numéros de téléphone et lieux de résidence pour diverses raisons. C'est le cas de Sandrine Mavé, utilisatrice des réseaux sociaux.
Je m'en sers pour garder des souvenirs en fait. J'immortalise des moments comme ça avec des petites vidéos, des photos, les téléphones peuvent se perdre et tout.
De son côté, Matala Dimbo affirme que les réseaux sociaux servent à la fois aussi à promouvoir ses affaires et à se détendre après une longue journée de travail.
Tu peux vendre sur TikTok et puis ça te ramène un résultat positif. Si tu rentres les soirs, tu rentres sur TikTok, tu te détends un peu alors.
Pour les experts, cette exposition excessive favorise les cas d'escroquerie, d'usurpation d'identité et même de chantage. Claude Diss est informaticien.
On peut directement voler votre identité personnelle en partageant tes images ou bien je suis ailleurs directement. On sait que notre tel monsieur X ou bien monsieur Y, pour le moment, il n'est pas sur place ici. Alors les bandits peuvent s'arranger pour dire qu'on peut aller cambrioler sa maison.
À travers cette journée mondiale de la protection des données, les Nations Unies invitent chacun à faire attention à ce qu'il partage sur Internet, car protéger ses données personnelles, c'est aussi protéger sa famille, son travail et sa dignité. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Okapi.
La loi et les codes du numérique doivent être absolument vulgarisés. C'est la conclusion de la conférence sur la désinformation genrée et la lutte contre les cyberharcèlements clôturée hier mercredi à Kinshasa. Je vous signale que ce programme a été organisé par la division des affaires politiques de la MONUSCO en partenariat avec le ministère de l'économie numérique et les ONG partenaires. Objectif, sensibiliser les jeunes activistes des droits humains, les influenceurs et les blogueurs congolais. On écoute Ghislain Kabeya Motomoke du ministère de l'économie numérique qui donne quelques articles du code numérique. Il est au micro d'Élise Kavira.
Notre objectif aujourd'hui est de vous sensibiliser sur les codes du numérique. Nous avons les codes du numérique à partir de ces articles 356 qui prévoient des responsabilités de tout un chacun. Vous diffusez des contenus tribalistes, racistes, xénophobes, vous serez puni. Et ceci peut aller de 1 mois à 2 ans de prison, de 500 000 francs à 10 millions de francs congolais. Nous passons à l'article 359 qui condamne les harcèlements. L'article 360, quant à lui, c'est pour des rumeurs, des fausses informations. Lorsque vous relayez cela, vous engagez votre responsabilité pénale. 1 à 6 mois, mais aussi, vous pouvez dépenser 500 000 à 1 million. Ces peines peuvent être encourues les deux à la fois, ou l'une ou l'autre. Ça dépend de l'appréciation des juges.
Avant d'aller plus loin, parlons du décès à Kinshasa de Roland Gilbert Okito Lumumba, fils cadet de Patrice Emery Lumumba. Il est décédé ce mercredi 28 janvier à l'âge de 67 ans. Architecte de formation, Roland Gilbert Okito Lumumba avait siégé pendant une dizaine d'années comme député national. Le fils du tout premier ministre du Congo de l'époque s'est distingué en faisant des démarches pour élucider les circonstances entourant le décès de son père. Il avait aussi pris une part très active dans le processus de rapatriement en RDC de la relique de son père, Patrice Emery Lumumba, conservé en Belgique, puis restitué officiellement à la RDC en juin 2022.
Actualité internationale.
Le Mozambique est toujours affecté par les plus importantes inondations de ces 20 dernières années. Les bilans continuent à s'alourdir. 137 morts, 180 000 hectares de terres agricoles inondées, 800 000 personnes affectées. 90 centres d'accueil ont été ouverts pour héberger les familles qui ont tout perdu. Les premières victimes de cette situation sont les enfants. Perte des repères, déscolarisation, malnutrition. À Xaïzaï, dans la province de Gaza, la plus affectée par les inondations, l'ONG Save the Children a mis en place des espaces pour l'enfance dans les centres d'accueil.
L'invité.
La rébellion de l'ADF est responsable de certaines des violences les plus atroces commises en RDC. C'est la conclusion du rapport que vient d'élaborer l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence et Bouteli. C'est ce qui a été débattu hier à l'émission Dialogue entre Congolais animée par Guy Maté Tchongo. Suivez tour à tour les intervenants dans cette émission.
Bonjour. Regen Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches et des groupes d'études sur les Congo GEC en sigle. Qu'est-ce qui a motivé l'élaboration de ces rapports sur les EDF, Regen Miviri?
Tout d'abord, il faut noter que nous suivons cette dynamique depuis plusieurs années et nous avons déjà fait plusieurs autres rapports sur les sujets. Mais il nous a paru important de faire un nouveau rapport et d'actualiser nos connaissances par rapport à ce groupe, étant donné qu'il y avait de nouvelles dynamiques, notamment le fait qu'il y a eu des opérations conjointes avec les UPDF. Il y a eu aussi la progression de ces groupes vers d'autres territoires, alors que dans le passé, il était circonscrit sur les territoires de Beni. Et donc, il nous a paru important d'y travailler. Une autre raison, c'était le fait qu'il y a eu beaucoup de travaux sur la dynamique M23 et l'agression rwandaise. on pensait qu'il était important de rappeler qu'il y a aussi d'autres conflits et malheureusement qui font parfois même plus de morts dans les rangs des Congolais et pourtant on n'en parle pas assez. Donc il nous a paru important de rappeler les gouvernants mais aussi l'opinion publique que cette crise reste aussi importante et c'est une crise qui réclame beaucoup de vies humaines encore malheureusement.
Il a été dit par certains experts que ces EDF, lorsqu'ils se sentent acculés par l'armée, vous l'avez aussi dit, Rigen, lorsqu'ils se sentent acculés par l'armée, ils s'en prennent à la cible facile qu'est la population civile. Dans les tactiques mises en place par l'opération Suja, est-ce qu'on a prévu des stratégies pour protéger les civils pendant ces opérations?
Je pense que c'est une des leçons qu'on tire de cette recherche et c'est aussi une recommandation qu'on donne. On a comme l'impression que la protection des civils n'est pas forcément la grande force de ces opérations, étant donné que chaque fois qu'il y a des opérations, on sait quasiment qu'il y aura de représailles, mais il n'y a pas de mesures qui sont prises en amont. On a aussi noté que les opérations sont strictement militaires, donc par exemple, le renseignement civil et militaire dans des villages n'est pas forcément mise à contribution ou la police n'est pas mise en contribution pour notamment la protection des citoyens, étant donné que les militaires sont mobilisés sur des fronts et parfois en profondeur de la brousse. On a aussi noté en fait quelque chose par rapport aux intérêts des uns et des autres. Donc les intérêts de l'Ouganda ne sont pas forcément les intérêts des Congolais. Le Congolais, les intérêts seraient de protéger les populations contre ces massacres, mais pour les Ougandais, une fois la menace est repoussée très loin de leurs frontières, une fois les réseaux économiques sont sécurisés, il est évident qu'eux, ils vont considérer que c'est un succès. Et donc, pour eux, ils évaluent le bilan positivement, pendant que nous, par exemple, on considère que ce n'est pas encore une réussite, étant donné que les massacres se poursuivent.
Merci, Jackson Aoussé. Vous êtes député national honoraire, vous êtes notable du territoire d'Irumou en Ituri, vous êtes cadre d'Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Selon ces rapports de Bouteli, ces rebelles sont arrivés à Irumou, notamment à la suite des opérations conjointes FRDC-UPDF. Quelle est l'évaluation que vous pouvez faire, n'est-ce pas, de ces opérations militaires, Jackson Aoussé?
En fait, attaque élue du peuple, attaque notable, pour moi, l'indicateur principal d'évaluation d'une opération que ce soit, c'est la protection de la population. À partir du moment où nous sommes dans une situation où on meurt à corps à nombre dans le même endroit, souffrez que je puisse vous dire que ces opérations sont à corps jusque-là un échec total. Parce qu'on ne fait pas les opérations pour les opérations, on fait les opérations pour sauvegarder les vies humaines, pour garantir la paix. À partir du moment où il n'y a pas la paix, à partir du moment où les vies humaines sont fauchées, on fait quel bilan? La période avant les opérations est égale à la période après les opérations, parce que les gens mouraient avant, les gens sont en train de mourir présentement. L'expert venait de le dire pertinemment. On devrait marier les opérations militaires et le mécanisme de protection des civils.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal du matin, coordonné par Richard Junior Kamunga, supervisé par Lievin Mbuinga et mis en onde par Jean-Claude Tsialamwana Makengonsoalo. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.